Et nous reprenons avec cette troisième partie, la deuxième s'étant terminée un petit peu abruptement par manque de temps.
Oui, tout à fait, j'ai dû accélérer jusqu'à ce qu'on comprenne plus, j'avais un nombre de mots par seconde trop important. Et...
Voilà, mais je pense que l'essentiel de ce que tu avais à dire est tout de même passé. Et nous allons terminer cette émission avec une dernière chronique.
Oui, sur le jeu Summerland.
Oui,
alors, bon, si Yannick était resté, j'aurais lâché quelques news sur Monster Force Terra, qui est un fabuleux, un des derniers actes d'Apocalypse World, où on joue des monstres de type Godzilla, et où il n'y a plus qu'une seule caractéristique, la taille. Et ce jeu a du potentiel, mais
c'est vrai,
nous en reparlerons une prochaine fois.
Ah oui.
Faut que je trouve des cobayes.
Ah oui.
C'est de la grosse bêta, hein, mais y a de bonnes idées.
Chiche, on joue.
J'ai même des figurines.
Oh.
Bah c'est Monster Apocalypse, un fabuleux jeu de figurines qui vous proposait toutes sortes de créatures et même des Lords of Cthulhu. Et oui, des seigneurs de Cthulhu. Bon, donc Summerland, c'est un jeu de Greg Saunders qui date de 2008, qui était traduit en 2010 par l'édition Icar. Je me base pour ma chronique sur une version anglaise qui fait 180 pages, petit format, avec quelques photos en noir et blanc. Un jour, il y a l'événement. L'événement, c'est les arbres se mettent à pousser partout et dévastent la civilisation en une nuit. En marge de la destruction des infrastructures, la forêt se met à appeler les gens dans ses profondeurs, sans qu'on les retrouve jamais, si bien qu'en gros 80% de la population est avalée par l'océan vert. Petit à petit, des communautés vont se reformer, et le lien social semble les immuniser à l'appel, tant qu'elles restent à l'abri dans leur refuge, qu'elles restent en fait, voilà, c'est plutôt vraiment la notion de rester en communauté, se rappeler ce que c'est que l'amitié, la famille et compagnie, etc. Je pense qu'il y a un petit message subliminal à l'auteur.
Mais alors, les gens qui vont dans la forêt, on ne sait pas ce qu'ils deviennent du tout.
Ah bah, les gens normaux qui vont dans la forêt sont appelés par la forêt. Et donc, ils n'en reviennent jamais.
D'accord.
Ils deviennent des arbres.
Voilà. Donc, les gens ne s'éloignent pas trop dans les profondeurs, quoi.
D'accord.
Mais qui peut bien braver le danger de la forêt quand il est nécessaire de sortir dans les bois, justement, là que tu poses la question.
Eh oui.
Les PJ, hein, bien sûr.
Oh, mais on aurait dû s'en douter.
C'est étonnant.
Qui c'est qui va aller couper du bois dans un endroit très dangereux?
Les PJ qui donc incarnent des errants. Et peut-être même qu'ils découvriront les secrets de l'origine de l'événement. Non, parce que. C'est parce que c'est pas du tout un jeu à secret. Comprendre ce qui est arrivé ou y remédier, ça fait pas vraiment partie des intentions du jeu. Et en fait, il n'y a même pas d'explication dans le livre. Donc tu ne sais même pas pourquoi les arbres vont pousser. Le but du jeu, qui est appuyé par le système, ça commence à revenir, hein, on sent que j'aime bien ce genre de jeu, c'est de faire en sorte que vos PJ puissent intégrer une communauté. Car s'ils ont des facilités pour aller dans les bois, pour ce qui est d'ignorer l'appel, parce qu'ils doivent faire face aux autres dangers, hein, les animaux, la faim, etc. Les PJ sont initialement inaptes à vivre en communauté sur une longue durée. Si l'appel est moins fort pour eux, c'est parce qu'ils souffrent d'un grave traumatisme, laissé par l'événement, ou même antérieur, qui est si fort en fait, qu'il arrive à étouffer l'appel de la forêt. Donc s'ils sont des errants, c'est pas par altruisme, hein, c'est parce que personne ne veut d'eux plus de quelques jours. Donc là,
c'est des rôlistes, en fait, c'est ça?
C'est possible, ouais. Mais tu peux prendre ça, un traumatisme. Je me rappelle, j'étais autour d'une table, et je jetais des petites choses sur une table.
Et plus personne voulait me parler quand je mentionnais ce mot dans la conversation.
Je faisais un jet de saumon, et à ce moment-là, je me suis réveillé.
Ouais. Donc l'objectif du jeu, c'est de faire en sorte que le personnage règle progressivement ses problèmes passés pour pouvoir revenir vraiment dans la société humaine. Donc effectivement, c'est un rôliste. Mais plus il redevient socialement intégrable, plus il est sujet à l'appel de la forêt, et donc susceptible d'y disparaître à jamais. Accessoirement, plus il est susceptible d'y disparaître, moins il est utile pour les communautés. Donc en fait, moins les communautés ont besoin de lui. Donc, moins. C'est un petit peu un cercle vicieux. En fait, il faut arriver à résoudre ses problèmes assez vite, tout en étant encore utile aux gens. Sinon, on finit juste à plaire dans la forêt, quoi. Dans les bois, on trouve aussi des animaux, hein, qui sont revenus en masse, et ils peuvent même faire preuve d'intelligence ou d'attitude presque humaine, selon le niveau de fantastique qu'on souhaite, en fait, dans le jeu.
D'accord.
Il y a aussi des égarés, ce sont des humains qui errent bêtement, peut-être à la recherche de leur ancienne vie, mais ils sont surtout à la merci des prédateurs. Ils vont pas durer très longtemps, hein, ceux-là.
Okay.
Il y a aussi des sauvages, hein, qui ont régressé à l'état animal, mais qui peuvent très bien avoir l'air normal de loin. Et en fait, il y a aussi d'autres errants, donc d'autres individus psychologiquement instables en liberté dans un monde sans loi ni barrière.
D'accord.
Donc théoriquement, toute rencontre peut s'avérer sympathique dans les bois. Je trouve même que ça pose un léger problème sur la cohérence d'un groupe de PJ, quoi.
Pourront-ils former un groupe, justement?
Ouais, voilà, ouais. On a eu le cas, un qui criait la nuit parce qu'il a peur du noir et compagnie, etc. Mais tu te doutes bien que c'est pas toujours très facile.
Un qui fait pipi au lit.
Bon, en marge de cet objectif d'intégration, le jeu propose plusieurs grands thèmes qui sont autant de prismes par lesquels on peut traiter l'univers de jeu. Plutôt l'horreur, plutôt l'espoir, le fantastique, parce que on est dans du post-apo, hein, de toute façon. Et puis différents styles de jeu, plutôt action, enquête ou survival. Si on est en survival, on va s'amuser à compter les balles. Si on est plutôt en action, pulp et compagnie, on s'en fout, quoi. C'est pas ça le débat, tout le monde part avec une cartouchière. Chaque perso a 4 qualités, corps, finesse, esprit et empathie, elles vont de 1 à 9. Et 5 traits qui leur sont associés, qui valent la moitié de la qualité à laquelle ils sont associés. Genre j'ai 8 en finesse, et j'ai bon tireur à 4 du coup, vu que c'est la moitié. Les traits sont freeform, il y a de nombreux exemples dans le livre, mais en fait, comme ils sont pas très nombreux, même en choisissant bien, on joue pas des cadors. En tout cas pas des cadors de polyvalence. C'est-à-dire qu'avec 5 traits, dont un qui, au moins un, et je crois qu'il y a un trait négatif, ouais. Ça va pas chercher extrêmement loin, quoi. Et le tout avec des scores de caractéristiques moyens. Donc, en situation de conflit, en fonction de ce que le PJ veut obtenir, le MJ va définir une difficulté pour l'action. 2D pour de la routine, 3D pour du difficile, ça peut monter jusqu'à 5. Le joueur peut éventuellement renégocier s'il joue que c'est trop difficile, quoi. Oula, ça, je vais pas y arriver, je vais essayer de trouver, on va faire autre chose. Finalement, on va contourner la meute de loups. Ensuite, il va, pour essayer de réussir son action, il va cumuler la qualité concernée. Un trait qui est lié à la qualité si c'est applicable, et un autre trait encore qui sera lié à une autre qualité si c'est applicable. Un allié lui aussi peut encore aider en donnant encore un trait, etc. Bon. Un score moyen, même en réunissant toutes ces conditions favorables, ça donne peut-être un 12, un truc comme ça. Donc c'est bien pour gérer une difficulté de 3D, donc quelque chose de difficile, mais au-delà,
ça devient
difficile, quoi. À noter que le matériel, ça n'a pas de valeur chiffrée, ça donne pas de bonus ou quoi que ce soit, c'est le MJ qui doit le prendre en considération dans son calcul de la difficulté. Bon, mettons que je veux abattre un rôdeur dans les bois, donc je prends ma finesse à 8, je prends mon bon tireur à 4, et je vais caser mon petit, il y a toujours une bonne blague à 2, hein, qui est liée à empathie, la blague c'est pour le faire rire dans le buisson, et repérer le gars. Donc ça me fait 14, voilà, j'ai un super beau score, avec ça je peux gérer une situation difficile. Ah mais il faut être inventif, hein, parce qu'il faut arriver à caser ses traits.
Ouais.
Et du coup tu te dis, voilà, merde, j'ai pris géographe. Ouais, c'est là, il va pas te servir beaucoup. Dans de nombreux cas, en fait, les conflits peuvent laisser des séquelles plus ou moins graves pour chacune des qualités. C'est-à-dire on peut avoir des séquelles d'empathie, des séquelles de corps, des séquelles de finesse, etc. La finesse,
des séquelles de géographie, ou non.
Je sais plus où je suis.
Et ça reprendra de l'épuisement de la volonté, etc. Bon, elles sont calculées en fonction de la marge d'essai sur une action. Hein. Elles impactent la fiction pour une durée qui varie selon la gravité, selon si c'est superficiel, grave, etc.
C'est-à-dire, tu dis, comment tu évalues ça, en fait?
C'est utile, ça part au bout de, je sais plus si c'est la scène, le lendemain matin, etc. Bon, le seul truc qui est vraiment handicapant, c'est les vraies blessures physiques, celles qui, les séquelles de corps, où là, forcément, ça, t'auras du mal à les guérir dans le scénar, et donc, celles qu'on aura le plus tendance à vouloir éviter, quoi. Là aussi, ça n'a pas d'impact technique, à part que le MJ doit le calculer, il doit le factoriser dans son calcul de difficulté, quoi. Donc t'es poursuivi par un ours, bon, déjà t'es mal barré, t'es poursuivi par un ours et en plus t'es gravement blessé au genou, bon, c'est...
Rends-moi ta fiche.
C'est 5D de difficulté. Hein, ouais. Bon, on a vu que c'était donc difficile de réussir les actions et que ça peut avoir des conséquences fâcheuses, donc il y a une petite carotte dans le système, c'est on peut faire intervenir son traumatisme pour réduire la difficulté des actions. Il suffit de narrer comment la situation présente est en rapport avec le trauma, genre « Oh, ce bâtiment en flammes me rappelle mon passé de pyromane !» où les arbres sont de plus en plus resserrés alors que t'es claustrophobe, etc. Et ça permet de réduire la difficulté d'un cran, donc d'un dé. Au passage, on bâtit progressivement son trauma, qui au début n'est qu'une phrase évasive qu'on couche sur le papier.
D'accord.
Indépendamment de la réussite de l'action, la présence de 1 sur le jet permettra de réduire le traumatisme après qu'on y ait fait face en situation de crise. Et à l'inverse, si on fait des gros scores en fait sur le jet de dés, bah on va potentiellement gagner jusqu'à 3 points de stress. Et à cause de la charge émotionnelle en fait que ça apporte. Hein. Réduction de trauma maximum, tu réduis d'un point. Et gain de stress, ça va de 0 à 3. Une fois qu'on a eu 5 points de stress, le personnage pète un câble en plein milieu de la scène. Alors à chacun de définir un peu comment ça se passe, mais généralement ça ne peut être que dommageable. Et même une fois calmé, il restera susceptible de craquer de nouveau. À chaque 6 en fait qu'il fera sur un jet de dé, pouf, c'est reparti. Donc quasiment à chaque scène, dès qu'il fera un jet, c'est bon, il répète un câble, quoi. Jusqu'à ce qu'il ait pu se reposer quelques jours au sein d'une communauté. Et là on comprend pourquoi il y a un intérêt technique aussi à être accepté à un moment donné. Parce que le personnage qui pète un câble tout le temps, je pense qu'effectivement, le groupe même de PJ va peut-être devoir, fois qu'il a détruit les vivres, jeter les fusils dans l'eau, qu'il hurle toute la nuit et ça attire tous les animaux autour, et qu'il éteint le feu en pissant dessus, alors vous n'avez plus d'allumettes. Je pense que vous avez un petit problème d'antipathie vis-à-vis de ce personnage. Ah, et dans l'intervalle, il ne peut plus non plus invoquer son trauma.
Ah,
et donc ça veut dire attends le prochain scénario pour essayer de faire baisser ton stress, enfin, ton trauma quoi. Voilà pour la partie règle, ça occupe une 60aine de pages sur l'ouvrage, hein. Tout le reste c'est, ça parle du setting, de l'ambiance, les types de scénarios qu'on peut faire, des PNJ, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples prêts à utiliser, des règles de création de communauté.
Ouais.
Moi je trouve que c'est un petit ouvrage que c'est sans prétention mais c'est fonctionnel, la mécanique soutient bien le thème du jeu. À nombreuses reprises, je l'ai ressorti de l'étagère pour finalement arriver à le tester. Merci les chroniques, ça me force à travailler. J'ai fait qu'un unique essai, c'était très facilement en posant quelques communautés, il y avait de quoi faire une mini campagne. Certainement ce qu'il fallait pour que les PJ arrivent à guérir ou à mourir en essayant de guérir.
Uh-huh.
Par contre, je pense qu'il y a quand même une variété assez limitée d'opposants et la faiblesse avérée des personnages. À mon avis. Je pense que ça permettrait pas un jeu palpitant sur le long terme, quoi.
Ouais,
parce qu'il y a pas de règle d'évolution d'XP. Le seul point sur lequel t'évolues, c'est la résolution de ton trauma. Voilà. Donc c'est voilà.
Donc un petit jeu de temps en temps.
Mais ouais, je sais.
En fait, moi, je vois pas bien où est-ce qu'on peut aller avec avec ça, en fait.
Qu'est-ce que tu fais, tu veux dire?
Ouais. Qu'est-ce que tu peux chercher à faire finalement, parce que. T'es plus ou moins condamné soit à mourir dans d'atroces souffrances, mangé par des créatures dans les bois, soit attiré dans les bois,
ouais.
soit fou, soit... En fait, c'est une partie de l'appel de Cthulhu dans la forêt.
Oui, tout en étant loin. Je m'étais aussi fait le parallèle un peu avec des univers comme Milvaux, de Thomas Meunier, etc. Quoi. C'est pour ça qu'il te donne aussi différentes approches, plus ou moins fantastiques. Est-ce que tu as envie d'avoir des... Tiens, genre, tu tombes sur un ours qui porte un anorak dans les bois. Est-ce que c'est un ours qui est en train de devenir, d'essayer d'imiter un humain, ou est-ce qu'au final, est-ce que ça pourrait être un humain qui s'est transformé en ours, etc.
Ou est-ce que c'est un ours qui a bouffé un promeneur et qui a réussi à enfiler son anorak?
Voilà, ouais. Parce qu'il a un sens du goût prononcé. une des autres thématiques, c'est l'espoir. Dans ce cas-là, si vous avez choisi, vous joueurs, parce que c'est des choses que tu définis avec les joueurs, hein,
ouais.
Qu'est-ce que vous préférez, de l'horreur survival, forcément, là, ça peut être plus dans un esprit Milvaux. Si tu dis de l'espoir et du fantastique, ben voilà, t'es plus sur la reconstruction de la société, les personnages qui agissent vraiment comme pont entre deux communautés, etc. Bon, moi, je l'ai fait plus horreur psychologique, où en fait, la communauté en elle-même, si tu regardais de bien, ils étaient un peu tarés, mais en fait, et c'était ça qui était intéressant, c'est qu'en fait, pour les personnages, c'est pas ça qui compte, c'est pas de juger si les... Oh, c'est une bonne communauté, c'est... Non, mais je m'en fous, acceptez-moi, je peux revenir dans la vie sociale.
Je m'en fous que vous soyez tarés.
Ouais, c'est ça.
D'accord,
voilà.
Ok, il y a deux, trois choses intéressantes. Donc peut-être plutôt pour un one-shot ou alors une mini-campagne de 3-4 épisodes,
ouais.
Comme
ouais.
Ça.
Moi, je le verrais plus comme ça. Okay. Mais comme dit, après, tu fais des missions pour les communautés, comme dit, ça peut être que convoyer quelqu'un. Le barrage qui fournit l'électricité au village est cassé. Le barrage hydroélectrique, il faut aller chercher l'ingénieur qui se trouve dans l'autre coin, blablabla. Mais bon, on retombe un peu sur du voyage, escorte, t'attaches le gars à l'arbre pendant la nuit pour qu'il parte pas quand il va entendre l'appel, etc. etc. Bon.
Ou alors, ça fait un peu penser à Vermine aussi, par exemple.
Ouais.
Mais il est vrai que vu le format et tout ça, c'est pas fait pour aller.
Non, voilà,
bon,
c'est pas comme
dit,
il y a un. Ouais, comme on dit, il n'y a pas d'explication à l'événement, c'est pas le but non plus. Il y a encore une fois une volonté qui est de jouer, qui est de intégrer une communauté en résolvant ton trauma et avec des incitations mécaniques. Ça appuie le jeu. Bon, voilà, ça tient la route. Ça fait ce que c'est censé faire, je pense. Voilà.
D'accord. Ok. Très bien. Bon, et bien merci. Je crois que cette fois-ci, on a terminé, non?
Oui.
Oui, hein.
Tout à fait.
Donc, alors, juste une dernière chose pour signaler l'existence d'un petit podcast qui vient de se créer. Il y a déjà deux numéros, c'est un podcast consacré à Blood Bowl et je vous mettrai le lien si ça vous intéresse.
Ah, c'est géré par Pedro ?
Oui, tout à fait. Et moi j'ai déjà discuté avec lui, tout ça.
Oh, je l'ai déjà fait jouer.
C'est vrai.
Un adolescent monstrueux.
Ah, d'accord.
Comme j'aime le faire avec beaucoup de gens.
Eh bien écoute, ce sont sur ces révélations sur ta vie intime
comme quoi une âme de midinette peut se cacher sous l'armure, sous une armure de Blood Bowl.
Oui, c'est ça exactement.
Eh bien, à bientôt pour le numéro 30. Mais
oui,
ouh.
À bientôt pour le numéro 30. J'espère qu'on pourra faire un live. Je vais essayer de faire ça.
Sinon, on boira du punch.
Sinon, on boira du punch
ouais,
à la maison.
Ouais, le punch à Noël.
Non, je sortirai le champagne.
Ah bah oui.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine fois. Salut. Ouais.